L'écriture est un sport comme les autres. Nathalie Azoulay, Ghislaine David. Une série consacrée aux écrivains qui font du sport et dans laquelle nous accueillerons chaque samedi de cet été Aurélien Bélanger, Camille Laurence, Emmanuel Carrère, Cécile Coulon, Luc Lang, Sigolène Vincent, Lola Lafont, Jean-Christophe Ruffin. Alors que le Tour de France démarre précisément aujourd'hui, nous ouvrons cette série sur les chapeaux de roue avec un écrivain sportif s'il en est et avec lequel nous nous demanderons s'il faut relayer l'écriture par une activité mobile qui contraste avec les heures immobiles. Aurélien Bélanger, vous êtes romancier, vous êtes l'auteur de 3 romans et vous faites du vélo.
Tout à fait, j'ai découvert le vélo entre mon deuxième et mon troisième roman. Je terminais le deuxième roman, je faisais des corrections, mon éditeur l'attendait. Il m'a engueulé quand je lui ai dit que j'avais acheté un vélo. Et j'ai passé l'automne au lieu de un peu retarder mes corrections, parce que je partais comme ça à faire des grandes journées de vélo. Et j'ai accumulé tellement de matériel cycliste que j'ai découvert l'objet de mon prochain roman en faisant du vélo, en fait. Je suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'Île-de-France, j'aimais beaucoup parcourir l'Île-de-France à vélo. Et ça a créé comme ça, ça a fait comme émerger du sol un objet littéraire. Et j'avais prévu d'écrire un tout autre roman. Mon troisième roman devait être un roman un peu de science-fiction, je sais plus trop. Et je me suis dit, non, je vais écrire, bricoler vite fait un roman sur le Grand Paris. Et en fait, ça m'a pris 2 ans et demi de ma vie. Mais c'est quasiment comme si le roman était quasiment une petite sacoche que j'aurais accrochée sous le cadre de mon vélo en pensant que ça allait pas faire grand-chose. Et puis ça a beaucoup modifié de choses, évidemment, comme toujours. Mais...
Alors diriez-vous que vous faites du vélo ou du cyclisme ?
Je fais du cyclisme dans la mesure où j'ai acheté un vélo avec un guidon à forme un petit peu taurine et j'ai acheté une décuissarde tenue absolument ridicule où la mousse de la Seine est portée par l'espèce de short à bretelles que je possède. Et la première fois qu'on met cette tenue, on se sent éminemment ridicule, mais on sent qu'on bascule dans quelque chose. C'est que la tenue, elle est tellement démesurée en termes de normes sociales, surtout qu'après je me retrouve dans le train habillé comme ça, que là j'ai basculé, je savais que j'étais devenu un cycliste. Après, je fais du cyclisme seul ou avec un ami, donc pas en mode compétition, donc il me manque les joies du peloton, il me manque les ravitaillements, il me manque la voiture suiveuse qui me donne des roues. Donc il manque énormément d'éléments du cyclisme, mais reste le plus grand, le costume en fait.
Est-ce que le Tour de France est un objet mythique pour vous ?
Le Tour de France, moi je l'ai découvert, je viens d'une famille de la classe moyenne et ne pas aimer le Tour de France était presque plus était important parce que c'était un marqueur de dissociation sociale. Je pense que la bourgeoisie et les prolétaires ont beaucoup moins de mal à aimer le Tour de France que la classe qui veut montrer qu'elle est bourgeoise. C'était familialement très distinctif de pas regarder le Tour de France. Donc je suis venu au Tour de France assez tard, c'est-à-dire à l'adolescence, tout simplement parce que j'étais en vacances avec mes parents et que je m'ennuyais atrocement. Donc j'ai commencé à regarder le Tour de France sérieusement vers 12 ans comme un plaisir un peu coupable et puis en fait j'aimais de plus en plus ça, donc c'est compliqué de regarder le Tour de France. J'ai jamais regardé la totalité des étapes. J'aime beaucoup, en fait j'aime vraiment beaucoup maintenant, et ça pose même un problème parce que maintenant que j'ai un vélo, je regarde le Tour de France dans un état de tension extrême et j'ai envie de faire du vélo, mais je me dis j'attends la fin de l'étape pour partir faire du vélo. Et je vis le sprint dans un état, des fois il m'arrive de vivre le sprint en tenue de cycliste, dans un état d'extrême nervosité, parce que je sais qu'au moment où ils franchissent la ligne d'arrivée, moi je serai parti. Enfin, le Tour de France reste quand même un objet fascinant, parce que c'est 3 semaines, c'est quasiment, je sais pas, un vingtième de sa vie d'homme peut être consacré au Tour de France, de sa vie éveillée peut être consacré au Tour de France. C'est un objet démesuré. Alors ensuite, en discutant un petit peu avec des gens qui s'y connaissaient beaucoup plus que moi en cycliste, j'ai compris, et je pense que je vais tendre vers ça maintenant en vieillissant, vers un mépris un peu aristocratique pour le Tour de France, qui est pas une vraie course, parce qu'ils s'économisent pour tenir 3 semaines, etc. Et que la vraie course, qui est rapide comme un coup de feu, ce serait la classique en fait, la course en un jour.
Aurélien Bélanger, vous êtes plutôt sprint, montée de l'Alpe d'Huez, descente Grand Mornant ou le Paris-Roubaix ? Quel genre de cycliste êtes-vous ?
À titre personnel, vu que je pèse presque 100 kilos, je suis pas un grimpeur, j'en suis désolé, parce que j'aurais aimé être un Richard Virenque que nerveux et épique. La fois où j'ai été le meilleur de toute ma vie à vélo, c'était à Ventefasse, sur la 4 voies, entre Calais et Dunkerque. Parce que là, c'est le seul endroit où mon poids me permet d'être avantagé, et d'avoir beaucoup de puissance, et d'aller très très vite, et puis c'est très très moche, et puis il y a des camions qui nous doublent, mais je roulais à fond. Là, j'ai eu une sorte de moment de grâce comme ça. Donc ça fait pas de moi un cycliste très très beau, c'est un peu le cycliste qui brille sur les premières étapes du Tour et qu'on oublie après. Et je suis pas assez punchy pour être un vrai sprinter non plus, donc je serais celui qui accompagnerait le sprinter, quoi, et qui disparaîtrait à 700 mètres de l'arrivée.
J'ai envie de vous demander, dans une journée ordinaire, comment s'articule le temps de l'écriture et le temps du vélo ?
Le problème du vélo, c'est que c'est tel que je le conçois, c'est pas un sport où je vais faire des sorties de 2 heures, je donne ma journée au vélo. Mais pour moi, la distance normale d'une sortie à vélo, c'est 200 km. Et à chaque fois que je fais 200 km, j'arrive dans ce kilomètre 120 ou 120, dire en fait, c'est beaucoup trop. Et arrive cette phrase récurrente à chaque sortie cycliste, il n'y a pas de petite sortie cycliste. Donc le vrai cyclisme, c'est partir le matin et arriver le soir. Et ce que j'ai fait mon plus principal accomplissement cycliste, c'est peut-être deux, c'est un jour où j'ai fait un Paris-Bruxelles avec un ami. On est parti alors qu'il faisait déjà très largement nuit, alors qu'on était aux alentours du 20 juin, et on est arrivé alors qu'il faisait déjà très largement nuit, et on avait vraiment donné notre journée au vélo. On avait fait 300 km et la journée n'avait pas d'autre existence que cycliste. Et peut-être l'autre fois, c'est un week-end où on avait très peu de temps, on était parti en voiture le samedi et arrivé au pied de l'Alpe d'Huez justement le samedi soir. Il nous restait 2 heures de jour pour grimper l'Alpe d'Huez et la descendre, et le dimanche faire 3 cols et finir sur la Croix de Fer, repartir, mettre les vélos dans la voiture et repartir à Paris, arriver à Paris à 3 heures du matin. Là, il y avait un côté de densité du temps, tout était empaqueté comme ça dans la voiture, dans nos corps épuisés, et c'était quelque chose de très beau. Donc j'ai du mal à concilier dans la même journée une activité d'écriture et une activité de sport. Quand je cours le matin, par exemple, ça m'arrive assez souvent. Il n'y a aucun problème et l'écriture s'accroche très bien à la course. Quand je cours, c'est des petites sessions de 6-7 kilomètres, ça marche très très bien. Mais dès qu'on passe un peu dans le côté exploit, donc soit courir 20 kilomètres, soit faire 150-200 kilomètres de vélo, exploit modéré, mais avec un côté, un explore un petit peu ses limites, ça pose plein de problèmes. Le premier problème, c'est qu'on atteint un état de bien-être qui est trop grand et de satisfaction tellement totale qu'on voit pas ce que l'écriture pourrait nous apporter de plus. Moi, j'ai découvert ça, en fait, en faisant du sport, c'est que cette espèce de tradition de se moquer de la bêtise des cyclistes, j'ai découvert ma propre bêtise de cycliste. C'est qu'à un moment, on est tellement heureux et satisfait, on n'a aucune raison de générer de l'insatisfaction par l'écriture. Alors, je suis bien meilleur écrivain que cycliste, en fait. En écrivain, je suis vraiment un grimpeur, c'est que je suis vraiment capable de faire des sessions de travail très très denses, microscopiques. Je peux écrire 3-4 pages en 20 minutes. Et c'est à peu près mon mode normal de travail. Autant en cycliste, je vais très lentement et je peux tenir 8, 10, 12, 14 heures. Autant en écriture, j'ai très très rarement dépassé l'heure de travail. C'est vraiment plutôt l'adrénaline instantanée. Avec cette chose qui est assez géniale dans l'écriture, c'est que ça génère son propre temps. C'est très dur de se dire qu'on va travailler 4 heures, mais par contre, dès qu'on travaille, le temps disparaît. Je ne travaille jamais, par exemple, aussi bien que quand je dois aller chercher ma fille à l'école et qu'il faut que je parte de mon bureau à 4h20 et que je m'y mets à 4h. Et là, ces 20 minutes arrivent à être un peu magiques. Donc, c'est plutôt une chance, hein, d'être meilleur écrivain que cycliste. Après, il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans toute cette affaire, c'est la ténacité. Là, j'ai écrit 3 romans, je suis en train de terminer le 4e. Il y a énormément de qualités, de défauts qui sont en jeu dans l'écriture romanesque. Il y a plein de choses qui sont importantes, mais la qualité première absolue, c'est la ténacité. Toutes les autres en découlent, en fait. Et la ténacité, c'est là où ça s'apparente le plus au cyclisme. C'est travailler tous les jours. On y arrive assez facilement. Mais surtout, survivre au moment où ça marche pas. Et il n'y a pas un roman que j'ai écrit où j'ai pas eu 2, 3, voire 4 mois difficiles. C'est-à-dire, il n'y a rien, pas d'inspiration, ce que j'écris est nul. Je continue. Si je veux faire une comparaison cycliste évidente, c'est le moment où on sait qu'on va devoir se prendre 40 km de national. Et qu'on sait qu'on n'y coupera pas, qu'on va passer 1h30 là, avec des camions qui nous doublent, à avoir peur de mourir, à s'ennuyer dans des décors affreux, parce qu'on a mal fait notre itinéraire, parce qu'on est un peu juste avec la trajectoire du soleil et qu'on arrive avant la nuit. Et on est obligé de faire un cycliste qui n'a aucun intérêt et on se concentre comme ça sur un truc lancinant. Et il y a ce moment-là où pour tenir un roman entier, dans mon idéal, c'est... Je vais le cracher d'un coup, en fait. Ça va être, je vais l'écrire comme ça. Et c'est possible, en fait, si on prend, je pense qu'il existe des drogues qui permettent de prendre ça, mélange de d'amphétamines et de choses anti-fatigue. On rejoint le cyclisme par un autre biais. Mais je crois assez à cette espèce de spontanéité du roman. un roman, finalement, c'est comme un très long poème, et le poème, il peut s'écrire d'un jet de plume. Le roman, c'est possible. Sauf que matériellement, c'est pas possible d'écrire 200, 500 pages d'un coup. Donc, on fractionne, et donc, on perd l'intuition, on la retrouve, on galère, on prend une note sur un bout de téléphone, sur un bout de papier, on la trouve géniale, on l'écrit pas sur le coup parce qu'on fait autre chose, on va faire des courses ou je sais pas quoi. Et puis, on la perd, et puis l'intuition est morte, et on essaie de retrouver une autre intuition, et puis on se retrouve. Ah bon, à la fin de mes romans, je sais que j'ai un fichier comme ça sur mon téléphone portable qui s'appelle Note pour le roman en cours, où je note toutes les idées, mais qui sont brûlantes. C'est pas genre des idées comme ça, c'est des idées, je sais que si je m'installe avec une feuille de papier maintenant, je vais la développer, ça va me faire 40 pages, je le sais. Sauf que je le fais jamais, et ce fichier, je me dis je retarde. Et puis arrive le jour où le roman est fini, et où je reprends le fichier de mes intuitions géniales, et elles valent plus grand chose, je les raccroche à rien, le roman est fini, et cette chose est perdue. C'est caractère un peu mélancolique de l'écriture romanesque, mais je crois assez, enfin pour revenir sur cette métaphore de tout à l'heure, entre la course à étapes et la classique. La classique est bien plus grande sportivement que la course à étapes. Le roman, et là, c'est obligatoirement une course à étapes, mais on tend comme ça vers la classique. Et on imaginerait une sorte de Tour de France idéal, c'est-à-dire les meilleurs cyclistes de l'année, pas d'autres saisons. Ils s'économisent pas pour le Tour d'Espagne. Tout le monde veut gagner. Il n'y a pas d'autres courses. Le calendrier de l'UCI a été très strict. Cette année, il n'y aurait que le Tour de France. Et ce serait un Tour de France où tout le monde serait en intensité totale.
Donc vous avez une recherche d'intensité.
D'intensité, disons que c'est le... Pour continuer la métaphore cycliste, c'est quelque chose qu'on a par exemple au 40e kilomètre. On part tôt le matin, on a froid, on n'est pas bien, et puis on est un peu mélancolique, toujours. Et il y a un moment, ça se produit souvent au 40e kilomètre, où le taux d'endorphine explose, et on est anormalement heureux. Et ça se produit... Moi, j'habite Paris, donc je quitte Paris, et ça se produit toujours à 40 kilomètres de Paris, dans un endroit d'une extrême ingratitude banlieusarde, où c'est en général toujours moche, parfois c'est les premiers champs qui arrivent. Et ce moment, ce bonheur intense croise comme ça un paysage qui est soudain transfiguré. Ou inversement, on a de l'intensité plate. Il y a beaucoup de romanciers qui sont très mauvais parce que ce sont des romanciers de l'intensité pure. Des flashs d'intensité comme ça superposés. Moi, je pense que il faut quand même disposer tous ces flashs d'intensité dans un gros échafaudage. Sinon la chose est trop plate et prend pas. Donc il faut arbitrer par rapport à ça. Et on retrouve quand même malgré tout quelque chose au bout d'un moment. En vélo, on roule, quoi. On avance, on roule. On réfléchit pas, on roule. Et puis, on est fatigué, on n'en peut plus, mais on se dit, si je m'arrête maintenant, de toute façon, il me reste 60 km, faudra que je roule ces 60 km. Donc, on se force à continuer.
Mais au-delà de la métaphore, Aurélien Bélanger, est-ce que vous diriez que vous faites du vélo pour écrire ou pour tourner le dos à l'écriture?
J'ai un intérêt très très fort dans ma vie pour les paysages. J'ai pas complètement le temps, parce que j'ai des enfants et des contraintes professionnelles, j'ai pas complètement le temps pour faire ce que je rêverais de faire, c'est-à-dire partir marcher pendant 800 km de façon complètement libre, etc. Le vélo me permet d'intensifier ça. Je sais que je suis à une journée de vélo de la mer et que je peux faire défiler plein de paysages et que je sais que si j'ai envie d'aller voir la Sologne, je peux aller voir la Sologne dans la journée même. Avec cette espèce de chose très belle qu'on n'a pas en voiture, c'est que le vélo, c'est vraiment une analogie. C'est pas la roue qui tourne, c'est quasiment la terre qui tourne avec lui. Donc on est... C'est un outil. Ça existait dans la géographie un peu à l'ancienne, avant les outils numériques. C'est ces espèces de petites molettes qu'on faisait tourner sur les cartes, qui s'appelle, je sais plus, curvimètre, je sais plus quoi, et on mesurait les distances. Donc ça, en tant que romancier qui a besoin d'intuition géographique forte, le vélo est nécessaire parce qu'il me permet de me produire ces intuitions géographiques que j'aurais peu le loisir d'avoir autrement. Par exemple, pour le roman Le Grand Paris, quand j'ai essayé de faire émerger l'objet Grand Paris, l'objet agglomération parisienne, etc., c'était un mélange d'intuitions d'enfance que j'avais eu en voiture avec mes parents. C'était des choses comme ça, mais j'ai pas de voiture moi-même, j'ai un peu marché, je suis allé un jour à Goussainville à pied pour aller chercher des morceaux de ville, etc. Mais le vélo m'a permis d'intensifier vraiment cette chose. Et je sais qu'il n'y a pas une ville d'Île-de-France, un temps soit peu importante, un type de paysage que j'ai pas fréquenté. Je suis vraiment allé, là, pour le coup, le vélo a vraiment joué un rôle d'amphétamine. C'est-à-dire, ça m'a permis d'accélérer mes sensations cérébrales et d'accéder un peu plus vite à un champ de sensations qui m'aurait fallu plus longtemps pour trouver. Je suis très fasciné, par exemple, par les écrivains géographiques comme Julien Gracq, quand il enseignait à Caen. J'imagine qu'il lui a fallu peut-être une quinzaine d'années de balades avec ses étudiants, etc., pour rassembler un matériel que j'ai assemblé en seulement un an de vélo. Donc, le vélo, pour cet aspect précis, est nécessaire à ma pratique d'écriture.
Parlez-nous des sensations que vous avez à vélo. Vous avez parlé d'accélération des sensations. Quelles sont-elles ?
Alors, il y a l'aspect lancinant. Terriblement lancinant. On s'ennuie beaucoup. Et il n'y a pas une sortie cycliste où il n'y a pas un instant de grâce. C'est souvent rien, hein. C'est très souvent lié à la première route non passante qu'on emprunte. En général, c'est des routes sans fossé, des routes comme ça qui sont juste posées comme au stabilo sur les champs, à fleur de terre. Et soudain, alors qu'il faisait un temps dégueulasse, soudain, il y a une trouée dans le ciel et là, le soleil arrive. Et c'est des euphories incroyables.
Donc
et
c'est le changement de rythme entre la monotonie et le moment de grâce.
C'est l'idée de... On en a vraiment galéré pour aller le chercher et on a vraiment travaillé, au sens physique du terme. On a travaillé et au bout de ce travail, on a cette espèce de lumière. Parfois, c'est caricaturalement génial. Quand j'ai découvert assez tardivement les cols, c'est prodigieux. Quand on tombe sur les premières neiges éternelles au mois d'août, comme ça, qui s'accrochent aux montagnes, et puis c'est d'une beauté, et puis on est dans un état de réception du sublime, parce qu'on est épuisé, et puis on sait ce qu'on a fait, en fait, on a fabriqué, on a monté sur une sorte d'ascenseur, où avec les deux pédales, on a appuyé comme ça, on s'est hissé, on est parti, je sais pas, de 400 mètres, et puis on est monté jusqu'à 1800 mètres, et c'est dingue de l'avoir fait, enfin, c'est des sensations de fierté, et puis on a vraiment réussi à exister dans ce paysage. Moi, c'est quelque chose, une sensation que j'avais beaucoup. Je faisais du roller jadis et j'habitais près de Montmartre. Je travaillais dans une librairie dans le 5e arrondissement, donc je traversais tout Paris. Et je voyais la densité des toits comme ça, toute grise, toute resserrée, etc. Et j'en revenais pas de réussir à traverser ça à roller. Ça me semblait immense. Bah, le vélo, c'est la même chose, sauf que c'est plus Paris, c'est les Alpes. Et j'arrive à traverser les Alpes. Et c'est dingue parce que je les vois, c'est monstrueusement grand. Et j'ai une sorte de fierté comme ça, naïve, toute simple, de me dire que j'y arrive. Donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'émotions simples. Et c'est quelque chose aussi qui est compliqué parce que le sublime alpin, par exemple, qui est vraiment bien documenté, c'est vraiment un âge. Pendant très longtemps, les hommes détestaient les Alpes. Et puis à partir de la fin du 18e siècle, ils se sont mis à adorer les Alpes. Et on ne sait pas exactement comment l'utiliser, ce sublime, parce que littérairement, ça donne des choses souvent un peu tardes, et puis ça a été refait, surtout, on est à la 8e génération de romantiques alpins, on ne sait plus comment le faire. Et le vélo permet de redonner peut-être un peu de sens à ça, parce qu'on est, je ne sais pas comment le dire, mais on est dans un rapport de... On a un rapport de justesse par rapport aux sensations. On n'est pas juste dans un paysage joli qu'on va décrire de façon jolie, de façon touristique. On l'a vécu intimement. On est intégré au paysage et on l'a vécu comme une aventure. Et soudain, je sais pas, une crevaison ou le troisième col de la journée, on n'en peut plus. On s'allonge sur la route. Et là, on est heureux, mais alors de façon... Et là où on pensait qu'on était devenu vraiment le dernier des crétins, on se rend compte qu'en fait, notre cerveau, soudain, peut se réouvrir et qu'on a un niveau d'immensité comme ça, cosmique, dans son rapport au monde, qu'on pensait à jamais perdu dans la bêtise du mouvement. C'est vraiment intéressant parce que c'est un jeu éclatique. C'est un texte que j'aime beaucoup de Peter Handke qui s'appelle Essai sur la fatigue. Il raconte une scène de fatigue, c'est que il était chez ses parents à la ferme et un été il ramasse des bottes de paille, il les range dans un grenier, il a très chaud, il est fatigué. Et il raconte à quel point la fatigue était immense et qu'elle était un état un peu goethéen d'acceptation de l'univers, une sorte de sensation pré-romantique. Dans le vélo, on trouve aussi ce genre de choses. Ouais. Peut-être pas exactement au moment où on le fait, mais au moment où ça s'arrête. Et puis quand on revient d'avoir fait 200 km de vélo, l'heure qui suit est prodigieuse. Moi qui suis un peu hyperactif, qui n'arrive jamais à rien faire, c'est les rares fois de ma vie où j'arrive à rien faire. Et c'est délicieux.
Et donc, est-ce qu'il y a des idées qui vous sont venues à vélo ? Des idées qui sont venues dans l'ivresse du moment et cet état de bien-être dont vous parlez ? Mais qui soit ont tenu, soit n'ont pas tenu. Est-ce qu'il y a des idées qui surgissent comme ça ?
Alors, en vélo, non, j'ai un souvenir très précis, c'est dans le Grand Paris, il y a trois parties, et chaque partie est séparée par la profanation d'un mausolée. C'était très important, il y a un mausolée dans le désert algérien, il y a un mausolée factice, et spirituel ou scientifique, qui est le pavillon, le maître étalon du pavillon de Sèvres. Et je me souviens très précisément, quand j'ai eu l'idée de mettre en scène cette petite thématique avec des mausolées, c'était dans les premières côtes de ma première ascension du Ventoux, le moment où je quittais le village et où ça allait commencer à devenir dur. J'ai oublié le nom du village, c'était par la face sud. Et j'ai eu cette idée, et cette idée m'a emporté comme ça sur 1 ou 2 kilomètres, le moment un peu ingrat où on n'a pas envie d'y aller, on sait que ça va être dur, il y a encore quelques maisons, et puis soudain on sait qu'on va tourner à gauche et ça va être la forêt, et ça va être l'enfer comme ça pendant 16 ou 17 kilomètres. Et bon, de temps en temps, enfin là c'est très précis, je sais que ça m'est au moins arrivé une fois, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais c'est arrivé, ouais.
Aurélien Bélanger, vous avez un rapport ingénieur avec cette comptabilité qui consiste à compter soit le pourcentage des côtes, soit le nombre de coups de pédale quand on est en côte et que c'est difficile. Est-ce que vous avez comme ça ce rapport ingénieur qui s'amplifie à vélo?
Alors, quand la veille, par exemple, d'une sortie cycliste, oui, je lis des choses folles sur les forums. Ouais. Je connais chaque section, par exemple, du col que j'ai monté. Et puis, je commence à lire des forums sur comment sont catégorisés les cols. Est-ce qu'il faut compter la longueur? Est-ce qu'il faut compter le ratio entre la longueur et la difficulté, etc.? Quel est le col le plus difficile d'Europe? Et j'adore ces débats qui sont vraiment des débats typiquement sportifs. C'est des débats d'obsessionnels. Personne n'est d'accord. Tout le monde affirme une idée très forte. Et on sait, au fond, que tout ça est gouverné par une sorte de mauvaise foi. Et puis arrive le mathématicien génial qui découvre le nouvel algorithme de traitement du col et qui d'un coup, oui, l'outil universel est génial, mais on ne m'enlèvera pas l'idée que le Ventoux est plus dur que l'Alpe d'Huez. Voilà. Et bon, ça c'est assez... Ça, c'est assez plaisant. Début, je faisais du vélo avec quelqu'un qui avait un vélo en acier. Moi, j'avais un vélo en alu et il me disait que l'acier, c'était bien meilleur que l'alu. Et puis, je me moquais de lui. Et puis, maintenant qu'il est passé au carbone et que moi, je suis resté à l'alu, je lui dis non, mais le carbone, c'est nul. L'alu, c'est bien meilleur. Et puis, le jour où j'aurais basculé dans le carbone, je trouverais que, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Et lui, peut-être, sera déjà dans le monde du titane ou je sais pas, du bambou nanométrique. Enfin, non, cet aspect est vraiment très jouissif.
Et la douche, Aurélien Bélanger, est-ce que c'est un moment important? Est-ce que ça fait le tri entre justement les idées dont on se passerait bien et qui n'ont servi qu'à tenir et les idées qui restent et qui vont pouvoir devenir des idées de texte, par exemple?
Alors, comme souvent, je m'éloigne de Paris, je reviens en train. L'équivalent de la douche, c'est pas très sympa pour mes voisins, mais c'est le moment où la transpiration sèche sur la peau et se transforme en sel, sorte de moment où on devient soi-même un petit marais salant, et que je passe dans un état de grand bonheur et de grande hébétude dans un transilien quelconque. Et là, c'est assez... En fait, là, on n'est vraiment plus du tout dans la littérature. Je suis en général dans la consultation sur mon application Runkeeper de chacun de mes itinéraires et de cette espèce d'effort de mémorisation. Je suis capable, de mémoire, d'en retrouver chaque virage. Et s'il y a un virage que je retrouve pas mentalement, je suis très malheureux. Donc, cette espèce d'effort de mémorisation qui est pas directement romanesque, mais qui fait partie du plaisir du cyclisme, parce que c'est quand même un sport qui sollicite beaucoup la mémoire. J'oublie assez peu les trajets que j'ai faits.
Est-ce que vous notez vos courses à vélo comme vous avez noté vos courses à pied, en établissant à la fois le tracé des figures que vous aviez faites et aussi une forme de cartographie de vos itinéraires?
Oui. Bah, je récupère toutes les données dans un logiciel que je peux exporter dans des fichiers OpenGPS, GPX ou je sais pas quoi. Donc, je peux les transférer sur des cartes. Et régulièrement, j'actualise pour, par exemple, recréer mon Île-de-France imaginaire avec mes dernières courses. Et toutes mes courses existent sur une carte. Une fois, j'ai fait un Paris-Rouen et je m'étais trompé, j'avais pas lancé mon application correctement. Je sais un jour que je vais refaire au mètre près cette course parce que je sais qu'elle manque sur ma carte et c'est très triste. Et quand je cours, les rares fois où mon application tombe en panne, je m'arrête de courir en fait. Je ne vois pas l'intérêt de courir pour ne pas accumuler des données. Et ce qui m'a rassuré, c'est que je suis tombé sur des vieilles cartes que j'avais fait de vélo, que j'avais fait dans le département de la Mayenne quand j'avais 8-10 ans. Et c'était sur des vieilles cartes IGN, j'avais déjà reporté mes trajets en fait. Donc c'était déjà une obsession comme ça qui avait préexisté à la mode actuelle pour la quantification et qui lui survivra peut-être. C'est du pur fétichisme, mais j'en ai vraiment besoin. Ouais.
Est-ce que vous diriez, Aurélien Bélanger, comme l'écrivain japonais Haruki Murakami, que l'un de vos rêves serait de pédaler à l'infini, d'y passer toute votre vie?
Ça me rend trop mélancolique parce que je sais à peu près ce que je fais par an, je sais à peu près la taille que fait la Terre et je sais exactement tout ce que je fais pas. Mais effectivement, si on me prolongeait de 2 ou 3 000 ans, j'aurais un programme cycliste, mais très précis. Et je n'ai aucun doute. Je sais que au mieux, je ferais toutes les routes de Paris en courant, par exemple. Au mieux du mieux, à vélo, je ferais toutes les routes d'Île-de-France. Donc si j'avais un temps infini, évidemment, je ferais la totalité de toutes les routes du monde et puis je passerais au VTT, je ferais tous les chemins. De toute façon, dans le sport, il y a un rapport à l'éternité et à la mort. Beaucoup de gens qui font du vélo font du sport après avoir détesté le sport jeune, etc. Après avoir bu pas mal d'alcool, fumé des cigarettes, fait un peu la fête. Le sport est le moment un petit peu où on a des enfants, où on se rend compte que ça pourrait être agréable de vivre vieux et d'avoir un bon cœur. Enfin, voilà. Et le sport est quand même associé de façon lancinante et non ouvertement dite au moment où la mort arrive dans la vie, en fait. Le moment où on se rend compte qu'on a dépassé la trentaine. Et où on éprouve sa mortalité, on sait qu'elle va se produire. Donc le sport apporte ça. Et d'ailleurs, alors c'est lié à la peur des accidents, c'est lié à plein de choses, mais chaque fois que je dessine un itinéraire sur un petit papier pour le lendemain, je le fais dans un état d'extrême frayeur. complètement anormal, qui se dissipe aussitôt que je suis sur mon vélo le lendemain. Mais
j'ai peur de pas pouvoir le faire.
C'est comme si j'écrivais l'endroit où j'allais mourir. Alors statistiquement, il est peu probable que je meure en faisant une sortie vélo. Mais c'est comme si j'écrivais l'endroit. C'est comme si j'écrivais la ligne de la main sur laquelle ma propre mort était un moment écrite. Et du coup, c'est quelque chose. Enfin, je pense, c'est pour ça. Mais je le fais vraiment dans un état de frayeur anormale. Enfin, contrôlé, hein, bien sûr, mais un peu anormal.
Est-ce qu'il y a une addiction ?
Bah, l'addiction, c'est le moment où on se rend compte qu'on est anormalement malheureux et qu'on soudain on met ça en rapport avec le sport et qu'on a arrêté le sport et que ça nous a rendu malheureux. Donc c'est vraiment de l'addiction au sens pas métaphysique du terme, vraiment au sens biochimique, quoi. Le moment un peu. Et l'addiction, elle est un peu au paysage. Et puis cette espèce de magie de se dire l'addiction, un peu bravage, de se dire l'avoir fait. Quand j'étais à Bruxelles à vélo, c'était 300 km, c'était un peu trop par rapport à ce que j'étais capable de faire, je pense. Je l'ai fait pour me dire un jour que je l'avais fait. Et ça a presque été fatal, hein. J'ai arrêté le vélo quasiment après, tellement par dégoût. Hein. C'est le côté un peu sympathique du sport, hein. C'est de la gloriole, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment une addiction à son propre récit personnel. On est content d'avoir... Enfin, moi, je suis content d'avoir écrit des romans, et malgré tout, je suis content d'être allé à Bruxelles à vélo. Je mets pas les choses au même niveau, mais ça fait partie du pack, quoi.
Et si vous arrêtiez le vélo, Aurélien Bélanger, quel autre sport feriez-vous ?
Bah, je courrais, mais en général, si on arrête le vélo, on a un problème musculaire qui rend la course difficile. C'est une bonne question, ce serait... Non, je me vois vraiment pas arrêter le vélo, en fait.
Merci Aurélien Bélanger. L'écriture est un sport comme les autres. Nathalie Azoulay. Prise de son Cédric Châtelu. Mixage Benjamin Vignal. Réalisation Ghislaine Davigne. Samedi prochain, rendez-vous avec Camille Laurence et le tennis.